Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion des Assises internationales du roman, qui se tiennent actuellement à Lyon et où nous serons dimanche prochain, je vous propose aujourd'hui de rencontrer l'une des invitées du festival, la romancière américaine Claire Messud, qui en plus de ses talents littéraires, parle parfaitement le français. Son cinquième roman vient d'être traduit aux éditions Gallimard, sous le titre « La fille qui brûle », une fiction sur la jeunesse contemporaine, ses doutes, ses espoirs, ses fantasmes. Un texte tout en nuances et délicatesse, dont nous parlons tout de suite avec son auteur. Rencontre. Bonjour Claire Messud.
Bonjour Catherine.
Votre nouveau roman met en scène l'amitié de deux jeunes américaines, Julia et Cassie, de nos jours. Une relation très forte, née à la maternelle, mais qui au collège va se déliter doucement jusqu'à un dénouement définitif. Avec cette histoire, vous abordez un grand nombre de thèmes. L'adolescence, bien sûr, ce passage invisible mais réel où on passe de l'enfance à l'âge adulte, la fusion entre deux personnes, l'intimité, la conscience de soi, l'éloignement avec ses parents et même les fantasmes que l'on crée pour donner du sens à sa vie. Quelle était pour vous la première idée de ce roman, sa colonne vertébrale ?
Je crois qu'il y avait plusieurs éléments. Dès le début, il y avait déjà que je voulais écrire un roman qui serait une sorte de mythe de l'adolescence américaine, que ma fille, par exemple, qui a maintenant presque 17 ans, pourrait lire comme ça et reconnaître des choses de leur propre vie. Et en même temps, je voudrais qu'on puisse le lire comme une histoire de la façon dont nous créons nos histoires, nos propres histoires, et puis que ces histoires sont fabriquées en partie de toutes les histoires que nous avons entendues, lues, vues, ainsi que nos expériences. Donc c'est aussi une sorte de méditation sur la fiction.
Absolument, et nous y reviendrons. Alors, je rebondis tout de suite sur ce que vous venez de dire, Claire Messud. Je voulais écrire un livre sur le mythe de l'adolescence américaine. Est-ce que ça veut dire que, selon vous, c'est différent d'être adolescent en Amérique qu'en Europe, voire sur un autre continent?
Pas forcément, mais, mais c'est que je ne me sentirais pas capable d'en parler avec assez d'autorité de ce que c'est ailleurs, donc ce que c'est qu'en France ou en Angleterre même. Moi, j'étais adolescente, en fait, au Canada et aux États-Unis. Et le fait de voir mes enfants grandir aux États-Unis, ça m'a fait revivre mes propres expériences. Donc, tous les points de repère que j'ai se trouvent en Amérique du Nord. C'est pour ça.
Alors, l'histoire est racontée du point de vue de Julia, qui, elle, évolue dans une famille de classe moyenne, traditionnelle, stable, père dentiste, mère journaliste, tandis que Cassie est donc définie comme la fille qui brûle. Pourquoi brûle-t-elle, selon vous ?
Cassie, elle est aussi de classe moyenne, quoi. Sa mère est infirmière. Elle n'a pas de père. Elle n'a jamais eu de père. Et quand sa mère rencontre un autre homme et son attention est divertie, elle ne fait plus trop attention à sa fille. Et puis en plus, cet homme est assez difficile. Cassie se trouve très seule. Et les trajets qu'elle pourrait prendre pour arriver à son avenir semblent de moins en moins optimistes ou moins en moins prenable, si vous voulez. Et à ce moment-là, étant seule, elle a l'idée, au moins, qu'il faut qu'elle crée son propre futur. Tandis que pour Julia, les choses évoluent d'une façon beaucoup plus, comme vous dites, stable. Ses parents, elle et ses parents, ils ont tous les mêmes idées de ce qu'elle va faire après.
J'ai l'impression que c'est aussi un roman qu'on peut lire d'une certaine façon avec les codes des contes de fées, mais au sens évidemment pas féerique, plutôt cruel, c'est une notion qui existe dans les contes de fées où souvent les enfants sont abandonnés. Et là, par exemple, on est dans un milieu très... Il y a une forêt tentaculaire, d'ailleurs. Et c'est comme si ces deux jeunes filles que l'on capte entre 12 et 15 ans étaient au milieu de la forêt, avaient à leur disposition plusieurs chemins à prendre, et l'une se perd et l'autre trouve le bon chemin. Est-ce que ça peut être une lecture aussi de ce roman, Claire Messud ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Ça faisait partie de mon intention, justement. L'idée qu'on est construit en partie par les histoires qu'on a internalisées, qu'on a compris, même si ce n'est plus dans le conscient, même si c'est inconscient. Le sens de la forme d'une histoire est créé par les histoires qu'on a connues. Et justement, les contes de fées, ça fait vraiment partie de leur imaginaire. Et quand elles sont jeunes filles, quand elles sont petites encore ou assez petites, elles jouent dans ce monde imaginaire. Et ça, c'est la façon dont nous comprenons l'enfance. Mais on a l'impression, je crois, au moins aux États-Unis, la culture américaine, qu'en devenant adulte, on met de côté ces idées imaginaires. Et je voulais, d'une manière, exprimer le fait que leur vie, soi-disant adultes ou plus tard, ne sont pas moins imaginaires. Ils sont différemment imaginaires, mais pas moins imaginaires que leur vie d'enfant. Donc Cassie, elle imagine pour elle-même toute une autre famille et elle part à l'aventure. Et Julia, elle imagine la vie de Cassie.
Oui, effectivement. Cassie, qui est en manque de père, quand arrive ce nouvel homme dans la vie de sa mère et dans sa propre maison, d'où elle se sent de plus en plus exclue, elle se dit que cette légende selon laquelle son père est mort dans un accident de voiture n'est peut-être pas vraie. Et elle crée ce fantasme d'un père qui l'attend quelque part. Et en effet, grâce à Internet, elle fait des recherches et elle va à la poursuite de cette illusion. De la même façon qu'on peut renvoyer aussi ce texte à De l'autre côté du miroir de Lewis Carroll, qui est la suite d'Alice au pays des merveilles, où vous captez ces deux personnes, ces deux jeunes femmes, au moment où elles quittent l'innocence et elles passent de l'autre côté du miroir. Et est-ce que c'est un peu la fin des illusions ou pas ?
Moi, je crois que c'est la fin des illusions dans un sens et puis dans un autre. Ces illusions sont remplacées par d'autres, si vous voulez. Le fait de vivre dans la fiction, d'imaginer toujours les idées ou les émotions des autres, ça nous arrive à chacun tous les jours. Donc, ce sont des illusions. On peut croire que quelqu'un est triste ou que quelqu'un nous aime ou je sais pas, n'importe quoi, sans vraiment le savoir. On prend des petits échanges ou des petits actes ou des moments et puis on en fait une histoire et on le raconte. Mais c'est pas forcément vrai.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières en compagnie aujourd'hui de la romancière américaine Claire Messud, dont le nouveau roman La fille qui brûle vient de paraître et d'être traduit aux éditions Gallimard. On l'a évoqué depuis le début de cet entretien. C'est un livre qui, avec beaucoup de délicatesse, raconte cette amitié entre deux jeunes filles, deux adolescentes, Julia et Cassie, qui vont être séparées par la vie. Et avec un premier point de rupture, sans doute, au moment du lycée. Et dans ce roman, il est aussi beaucoup question de théâtre. Au sens propre du terme, Julia fait des concours d'éloquence. Elle veut aller dans une université prendre des cours de théâtre. Mais aussi au sens métaphorique, parce que souvent, c'est un mot, Claire Messud, que vous employez pour désigner, par exemple, l'espace du collège, l'espace de ce vieux bâtiment abandonné qui à une époque était un asile pour femmes, qui est un peu éloignée dans la forêt où elle se glisse par effraction et elle visite les différentes chambres et toutes ces pièces qui ont été en effet abandonné, mais théâtre aussi pour l'espace de la maison, voire de la famille, où on porte un masque. Est-ce que ça veut dire qu'en effet, nous sommes toujours en représentation, que l'on fait semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas?
Peut-être, ou sinon, par d'autres moments, on est peut-être en train de se construire par des masques. Donc on crée le masque et puis on devient la personne masquée, si vous voulez. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose de ne pas l'être, d'être quelqu'un d'autre derrière le masque. Mais moi, j'ai l'impression qu'un des passages de l'enfance à l'âge adulte, c'est justement cette conscience de soi. En tant qu'enfant, on n'a pas vraiment une idée de soi-même séparée des autres. Et pendant ces années, entre 11 ou 12 ans et 15 ou 16 ans, on devient conscient du monde autour et donc de sa place dans ce monde. Donc, c'est pour ça, je crois, que les adolescents veulent tous être pareils. Parce que, auparavant, même si on habite dans une famille, on grandit dans une famille assez étrange, on ne le sait pas. Et tout d'un coup, on se rend compte. Et à ce moment-là, on doit se dire, comment vais-je réagir et où voudrais-je me placer dans le monde en dehors de la famille?
Donc le monde, c'est aussi une grande scène théâtrale.
Oui, oui. Je ne sais pas si ça correspond à votre expérience, mais j'ai souvent l'impression, étant adulte, que je participe dans des pièces de théâtre assez absurdes. Je sais pas. Par exemple, un dîner, pas un petit dîner, mais un dîner d'une quinzaine de personnes, c'est du théâtre, non?
Et c'est la même chose pour les adolescentes. Ce qui est frappant ici, c'est que l'adolescence que vous décrivez, donc celle du 21e siècle, c'est pas la même que celle que nous avons vécue, vous et moi. Par exemple, il y a plus d'écrans, il y a les réseaux sociaux qui multiplient beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi une forme de violence qui est particulière quand même à l'Amérique et au lycée. Et là encore, il y a quelques jours, on a vu une épouvantable tragédie d'un jeune garçon qui, avec une arme à feu, a tué un certain nombre de ses camarades. Est-ce que vous avez l'impression que cette donnée très américaine change le fait d'être adolescent aux États-Unis aujourd'hui?
C'est sûr, c'est sûr. Je crois qu'il y a une étudiante de cette école qui a dit aux journalistes qu'elle avait en tête que ça lui arriverait un jour. Donc, quand je disais tout à l'heure, les histoires qu'on entend, qu'on reçoit, on les internalise et puis on a l'impression que ça, c'est l'histoire de la vie. Cette jeune fille, elle avait en tête depuis des années que ça devrait lui arriver. Parce que il y a tant de cas de ces incidents terribles, un genre de terrorisme, d'ailleurs, finalement. Et je crois que c'est vrai. On pourrait faire un cours d'histoire pour tracer la violence dans la culture américaine. Ça a toujours fait partie de notre culture. Mais je crois que depuis 20 ans, c'est devenu, pour des étudiants, c'est devenu vraiment une histoire centrale de l'expérience adolescente.
C'est un livre aussi, donc, vous l'avez déjà évoqué, Claire Messu, sur l'écriture. Par exemple, Julia, qui doit écrire un discours pour son concours d'éloquence, entend dire par son professeur que le meilleur moyen d'être convaincante, c'est de s'impliquer personnellement. Et vous, Claire Messu, quelle est la part de votre implication personnelle dans ce roman?
Ah, ben, ça, il n'y a pas de réponse directe, parce que ce n'est pas un récit, il n'y a pas de biographie dedans, c'est de la fiction. Mais en même temps, on ne peut créer que ce que son imaginaire peut créer. Et donc, en même temps, c'est personnel, donc ça vient de moi. Je pourrais pas, je me dis, par exemple, il y a un écrivain merveilleux comme Joyce Carol Oates qui écrit des romans du point de vue d'un serial killer. Ça, je pourrais pas. Je n'ai pas une imagination qui va aussi loin. Donc, tout ce que je crée, ça vient de moi, si vous voulez.
Encore un mot, vous écrivez page 253. Je pense que c'est la clé de ce livre. Sur scène ou dans un film, nous sommes conscients des artifices, nous acceptons le fait d'avoir créé un monde qui exclut ce que nous ignorons. Tels des dieux, nous inventons un monde qui a du sens. Est-ce que c'est une façon de dire, en effet, Claire Messud, que la vie, parfois, n'a pas de sens et que par la fiction, nous lui en donnons ?
Si, je crois. Je crois que c'est pour ça. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on lit, mais je crois que on cherche dans les histoires un sens entier pour nos vies à nous, et c'est naturel en fait de chercher du sens, mais à mon avis c'est comme naviguer un bateau à travers un passage étroit entre ce que nous aimerions trouver et ce qui est. Il faut trouver ce passage pour arriver à une compréhension de nos vies, je crois.
Mais c'est ce que vous cherchez, vous, dans l'écriture, dans la création littéraire, mettre du sens là où il n'y en a pas forcément ?
Je dirais que quand j'étais jeune, je crois que c'était une fantaisie que j'avais de ce que faisait la littérature. Et plus maintenant.
Vous voulez dire que c'est une illusion que vous avez perdue ?
Oui.
Alors, la littérature, pourquoi ?
Ben justement, pour essayer de rattraper et de communiquer ce que c'est que d'être des humains en vie sur notre planète.
Et dire qu'on n'est pas tout seul.
Et que la littérature, comme on le sait, peut parler non seulement entre personnes, mais à travers des cultures, à travers des siècles, à travers et dans ce sens, ça nous donne de l'espoir, ça nous donne beaucoup de choses. Quand je pense à Proust, par exemple, il parle de plein de choses, mais il y a en Proust des moments où il note des petites expériences personnelles dont on ne parle jamais. Et quand j'ai lu Proust, quand j'étais jeune, je me suis dit, je suis pas seule. Mais les toutes petites choses. Et ce n'est pas uniquement que c'est réconfortant, ce qui est vrai, mais que c'est beau.
Vous venez de citer Proust. Les auditeurs ont pu entendre à quel point vous parliez bien notre langue française. Quel est votre lien, vous, avec cette culture, vous, l'américaine, canadienne ?
Mon père était français. Il était pied-noir, il était français. Mais mes parents se sont rencontrés en parlant anglais. Et on a toujours parlé anglais à la maison. Et il nous a fait apprendre le français, bien sûr. Ma tante et mes grands-parents ne parlaient que français. Alors, il fallait quand même apprendre.
Donc, vous avez non seulement un lien littéraire, mais un lien familial avec la culture française. Et vous venez régulièrement, d'ailleurs, d'où votre présence à Lyon ce week-end pour les Assises internationales du roman. C'est important pour vous d'échanger avec des intellectuels, des écrivains d'expression française, mais aussi venus de tous horizons.
Oui, oui. Pour moi, c'est... Je dirais même que mes parents ne sont plus en vie, mes grands-parents non plus, ma tante non plus. Et il m'est devenu même plus important ces dernières années d'avoir un lien personnel, de me sentir, proche de cette culture française, parce que en grandissant, on a passé nos étés en France. Chaque été, on a passé un mois ou deux chez nos grands-parents. Et maintenant, il y a plus d'endroits. Ça se fait pas tout seul. Donc, j'essaye quand même de... La vie, on est très occupé, bien sûr, les enfants, la famille, le travail, tout ça. Mais j'essaye quand même de maintenir un lien avec cette culture formidable et ce beau pays.
Merci beaucoup. Claire Messud, je rappelle donc que La fille qui brûle est votre nouveau roman, traduit en français par France Camus Pichon aux éditions Gallimard.
C'est moi qui vous remercie.
Merci.
Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.